Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus à cette réunion publique d'information sur le budget principal de la ville de Die. Le format de cette soirée est assez simple. Nous allons avoir l'intervention de Jean-Pierre Bertrand, premier adjoint de la ville de Die, entre autres en charge des finances, qui pendant 30 minutes nous fera un exposé, j'espère le plus clair possible.
On va essayer.
Mais avec les finances, c'est toujours un peu compliqué. Puis nous aurons une heure dédiée à vos questions. Donc on notera, on tâchera de gérer ça par salve de 4-5 questions avec des réponses, si on peut le faire, groupées. Je vous informe également que cette réunion est enregistrée, mais n'est pas en direct. Donc vous retrouverez l'enregistrement sur notre site. Bon, d'ici la fin de la semaine, en principe, au mieux demain, au pire d'ici la fin de la semaine. Voilà, je vous remercie également. Je ne me suis pas présenté, donc je termine par ma présentation. Je suis Dominique Joubert, je suis adjoint, entre autres, à la communication à la ville de Die. Et j'ai un grand plaisir à vous accueillir aujourd'hui. Jean-Pierre.
Allez, on est parti. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus. Alors le budget, c'est généralement quelque chose qui est traditionnellement débattu ou abordé lors des séances du conseil municipal en fin ou en début d'année. Il se trouve que deux administrés ont porté des remarques sur le budget et ont porté le débat sur la place publique. C'est tout à fait leur droit, tout à fait leur droit. Il nous a semblé normal de pouvoir à notre tour vous apporter des informations sur le budget principal de la ville. Alors en fait, la ville, elle n'a pas un budget, elle en a 6. Elle a un budget pour l'eau, un pour l'assainissement, un pour la microcentrale qui produit un petit peu d'électricité qu'on revend, un pour le camping, un pour la ZAC de Champ-Queyras et un budget principal. Ce soir, on va parler plus particulièrement du budget principal. C'est celui qui est le plus regardé, le plus ausculté et le plus à la rigueur, critiqué souvent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une interaction entre eux. On le verra un petit peu tout au cours de la soirée, mais c'est sur le budget principal. Alors, qu'est-ce que c'est déjà le budget principal, pour situer ? Eh bien, ça commence par ce qu'on appelle les ASEM, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent avec les instituteurs à l'école maternelle des classes. C'est aussi la cantine, et puis c'est aussi la police municipale, c'est aussi l'accueil avec tous les papiers de l'état civil, les extraits d'actes de naissance. C'est aussi le centre communal social, le CCAS. C'est aussi l'urbanisme. C'est aussi la voirie. C'est aussi le service de propreté. C'est aussi les bâtiments, c'est aussi les espaces verts. Donc vous voyez que ce budget, il est quand même très important. Donc ça veut dire que chaque fois que vous mettez le pied dehors de votre propriété, vous rentrez dans le budget principal. Donc c'est celui-là qu'on va regarder ce soir. Alors il m'a paru assez intéressant, avant de parler du budget principal et de regarder ces indicateurs, de voir comment fonctionnait un budget principal. Alors, je m'excuse auprès des éminents spécialistes qui sont peut-être dans la salle, mais je vais essayer d'expliquer ça assez simplement, parce que si on ne comprend pas le mécanisme, on ne peut pas comprendre comment on peut le juger. Alors, le mécanisme d'un budget principal, il fonctionne comme ça. Il faut voir qu'on a là, d'un côté, le fonctionnement, et d'un autre côté, l'investissement. C'est très séparé. Ce qui fait que sur le fonctionnement, ce qu'on voit en haut, là, sur le fonctionnement, on a... En recettes, on a des recettes et dépenses et un excédent. En recettes, c'est les dotations que nous donne l'État. L'État nous donne de l'argent tous les ans. C'est les impôts de la taxe foncière, la taxe foncière bâtie et non bâtie, de la taxe d'habitation, des résidences secondaires. C'est les recettes que peut avoir la ville sur les droits de place qu'elle met, par exemple, pour le marché. Et c'est aussi, on y reporte, par exemple, les ventes de la microcentrale électrique, on vient les porter là, ou les excédents du camping qu'on vient porter ici. Donc ça fait les recettes de fonctionnement. Et puis on a des dépenses. Les dépenses, c'est pour partie le personnel, avec les salaires et les charges qui en découlent, mais c'est aussi tout ce qu'on appelle les flux, c'est-à-dire l'électricité, le gaz, l'essence pour les véhicules, et puis c'est aussi les fournitures, tout ce qu'il peut y avoir comme fournitures. Et donc, il se dégage donc après un excédent, enfin, il vaut mieux qu'il y en ait un, vous verrez pourquoi après, il se dégage un excédent qu'on appelle la CAF, la capacité d'autofinancement. Retenez surtout, pour ceux qui sont néophytes un peu, c'est un excédent de fonctionnement. Et puis en dessous, on a les dépenses, on a l'investissement avec les dépenses. Alors l'investissement, qu'est-ce que c'est ? Ben, l'investissement, c'est des opérations qui se traduisent par une modification ou une amélioration du patrimoine. Les derniers investissements qu'a fait la ville, par exemple, c'est refaire la toiture du musée. C'était 500 000 euros, par exemple. Refaire, rénover le skatepark, c'est acheter un nouveau véhicule, c'est tout ce qui est mobilier urbain. Donc c'est tout ça qu'on appelle les investissements. Et donc ces investissements, on va les financer en plusieurs morceaux. D'abord, en bas, on voit qu'on a le FDR, alors, le fonds de roulement. Globalement, sans rentrer dans des détails trop précis, c'est les excédents des années précédentes qui peut être utilisé. Après, on a l'emprunt. On va voir le banquier, on lui dit « il nous en manque un peu, il faudrait que vous nous prêtiez un peu d'argent ». Et puis, on a les subventions. On peut obtenir parfois des subventions sur des projets, pas sur du courant, pas sur de la voirie, mais par exemple, sur le projet du skatepark, on a des subventions. Et puis, on a le FCTVA. Alors, pour faire simple, c'est la TVA qu'on récupère de l'année précédente. Mais ce n'est pas la TVA complète. C'est un calcul qui est assez, assez compliqué. Donc, on va dire qu'on récupère une partie de la TVA. Et puis, c'est cette fameuse excédent qu'on a vu en haut qui est reporté en bas. Et c'est avec l'ensemble de ces recettes, qu'on peut financer les investissements. Donc, on voit que c'est un mécanisme à la fois simple, mais extrêmement imbriqué. C'est-à-dire que y a un passage entre le fonctionnement et l'investissement par cette CAF. De ce schéma de fonctionnement de la comptabilité publique, on va en tirer des indicateurs. C'est-à-dire que... Alors, il y en a 33, je crois. Bon, on ne va pas les faire ce soir, vous inquiétez pas, on ne va pas faire les 33. On va en faire juste 3, c'est déjà pas mal. On tire des indicateurs qui vont donner une idée de la bonne ou mauvaise gestion ou de comportement de ce budget. Le premier indicateur qu'on va prendre, c'est l'emprunt. Alors, ce n'est pas l'emprunt proprement dit, mais quand on emprunte, ça veut dire qu'on s'endette. Donc, il va falloir voir si la ville de Die est endettée ou pas endettée. C'est-à-dire que ça, c'est un premier critère. Après, il y a un deuxième critère qu'on va regarder, c'est les investissements et les dépenses d'investissement. Parce que c'est important de savoir, est-ce que l'argent qu'on met, comment on le met, est-ce qu'on en met suffisamment par rapport aux autres années, est-ce que les investissements de la ville de Die sont restés constants tout au long des années. Et puis, il y a un troisième indicateur qu'on va aller voir, c'est ce fameux excédent. Parce qu'il est assez important dans le sens où, à la fois, il reflète la qualité de gestion. C'est-à-dire, plus je dégage d'excédents, plus on peut juger que ma gestion est de qualité. Et en plus, plus je dégage d'excédents, plus je vais pouvoir le porter sur l'investissement et alléger soit mon emprunt, et pouvoir tenir mes investissements. Donc, cette CAF est un élément relativement important. Donc, si vous voulez bien, on va voir ces indicateurs. Alors, sur quelle base vont être présentés ces indicateurs ? La ville a, comme interlocuteur institutionnel, la DGFiP, Direction Générale des Finances Publiques. Cet interlocuteur, la ville le rencontre fréquemment, très souvent, soit via les services, soit via les élus, et ils ont un rôle à la fois de conseil, et puis aussi d'interprétation des directives, parce que ce n'est pas toujours évident, quand ça arrive d'en haut, des directives, et bon, ils aident les services surtout à interpréter les directives. Alors, qui sont ces personnes ? Ce sont des fonctionnaires compétents. Non, pas compétents. Très, très compétents. Et spécialistes de la comptabilité publique. Ils sont aussi impartiaux, parce qu'eux, ils vont travailler dans toutes les communes, quelle que soit la couleur politique, ils vont faire des audits dans n'importe quel... Et puis, ils sont aussi... Alors, si j'étais un peu taquin, je suis un peu... Ils ne sont pas en campagne électorale. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, le fait est que donc, ces personnes ont travaillé à la DGFiP. Et il y a 18 mois, on leur a demandé... Enfin, on est tombé d'accord, plutôt, pour qu'ils nous fassent une analyse de notre budget. Et donc, ils nous ont rendu, il y a quelques semaines, l'analyse du budget de la ville pour les années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. C'est-à-dire sur les 5 dernières années. Sur ces 5 dernières années. On pourra même voir, après, du coup, comment on est sur 2025 et faire même de la prospective sur 2026 et après. Donc les chiffres que je vais vous présenter ce soir, ce n'est pas mes chiffres. Ce n'est pas les chiffres que j'aurais été chercher moi tout seul, comme dans la comptabilité, que j'aurais sorti, que j'aurais mis sur mon tableur. C'est les chiffres de la Direction générale des finances publiques. Rapport validé par la direction départementale. Donc c'est ces chiffres-là qui vont servir d'indicateur pour savoir où en est l'endettement de la ville, comment nous avons investi et où en est l'excédent, cette CAF. Est-ce que tout le monde arrive à suivre ? Ça va ? Bon, et voilà. Donc, si vous voulez, la première chose qu'on va regarder, c'est l'endettement. Alors, les critères pour l'endettement sont des critères un peu théoriques. Mais il n'empêche que c'est ces critères-là qui sont pris en compte. Quel est un des critères ? Bon, un des critères assez simples, c'est de dire, à la fin de l'année, si tous mes banquiers et mes créanciers me demandaient de rendre l'argent, combien il faudrait que je rende ? Il est évident que si vous commencez un mandat où il faut rendre 1 000 et qu'à la fin du mandat, vous devez rendre 5 000, ben, on va dire que vous vous êtes endetté pendant la mandature, évidemment. Donc ça, c'est un des premiers critères et donc qu'on va regarder. Et on va regarder après ce qu'on appelle la capacité de désendettement. Alors, sur le critère d'endettement, voilà le tableau. Alors, c'est extrait du rapport de la DGFiP. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est eux qui l'ont fait. Qu'est-ce qu'il dit cette analyse ? Elle dit qu'en 2020, le capital que la ville devait rendre aux banquiers, s'il avait fallu tout rendre, est de 4 996 241 euros, soit à peu près 5 millions. Et on voit son évolution, et il est en fin 2024 à 5 302 835 euros. Ça veut dire qu'en constatant qu'il y a une inflation à peu près de 10% pendant cette période, on peut dire que le capital est resté constant. Mais un autre chiffre est intéressant, c'est celui qui est juste en bas, qui dit qu'en fait, l'endettement par habitant est de 1051 euros par habitant sur la ville de Die. Là, je vais vous donner 3 chiffres. L'endettement par habitant sur la ville de Die à la fin de la mandature de M. Berginiat était de 1071 euros par habitant. À la fin de la mandature de M. Trémollet, il était de 1025 euros par habitant. Fin 2024, il est de 1051 euros par habitant. Donc on peut dire que sur les 10 ans qui viennent de s'écouler, l'endettement de la ville est resté constant, il ne s'est pas aggravé, il est resté le même. C'est déjà un fait. Mais si on va plus loin, ils disent, en comparaison des strates départementales, ça veut dire des villes de la même grandeur que la ville de Die, départementales ou régionales ou nationales, la ville de Die est plus endettée. C'est-à-dire qu'on dit, les villes de la Drôme, elles sont à 712 et vous êtes à 1051. Alors là, on pourra en déduire que, en fait, c'est mal géré quand même. Parce que votre endettement, il n'a pas augmenté, mais c'est mal géré parce que vous êtes bien au-dessus des autres. Et c'est, on pourrait. Mais dire ça, c'est soit qu'on ait quitté la ville de Die pendant très longtemps, ou qu'on ne la connaisse pas, ou peut-être même les deux à la fois. Pourquoi ? Parce que si on prend des villes de même grandeur, c'est-à-dire Donzère, Étoile-sur-Rhône, Saint-Donat-sur-l'Herbasse, Saint-L'Hermitage, voilà. Bon. Aucune de ces villes n'a à la fois un cinéma qui est en délégation de services publics, qui est donc aidé par la commune, une médiathèque où la commune participe à hauteur de 70 000 euros par an, un musée, un théâtre, un collège et un lycée biqualifiant qui demandent des structures sportives pour pouvoir rester, c'est-à-dire 2 gymnases, un dojo, une salle d'activité et un stade. Et n'est pas non plus ville touristique comme la ville de Die, avec une piscine qui est ouverte 3 mois de l'année, mais qui a beaucoup de monde, mais qui est largement déficitaire. Donc on voit bien que le besoin de la ville de Die est très différent de Donzère ou d'Étoile. Moi, j'habite à Étoile, je vais au théâtre, je fais 5 km, je vais au train théâtre à Port-les-Valences. Voilà. Et la ville d'Étoile, elle n'a pas à avoir un théâtre. Bon. Donc, on voit bien que notre demande et notre besoin est beaucoup plus important. Ça s'appelle le besoin d'un bourg-centre. Bon, et ça, de tout temps. Puisque l'endettement est resté le même quasiment sur les 3 mandatures, ça veut dire que c'est un besoin constant, supérieur aux autres. Bon, c'est un fait. Donc, sur l'endettement, ce que l'on peut en dire globalement, c'est qu'il est maîtrisé depuis 10 ans, mais qu'il est au-dessus de la moyenne des villes de même grandeur que la ville de Die. Mais il est maîtrisé. Donc, si vous voulez, ça, c'est le premier constat qu'on peut faire sur l'endettement et sur les indicateurs. Alors, après, on va parler, si vous voulez bien, des investissements. Alors là, je vais essayer d'expliquer comment ça fonctionne, parce que quand on va voir comment ça fonctionne, on va comprendre un petit peu mieux la chose. La commune, elle a un outil comptable qui s'appelle le référentiel M57. Alors, ne me demandez pas pourquoi il s'appelle comme ça, à part que 57, ce n'est pas une mauvaise année, à mon avis, mais le référentiel M57, c'est le référentiel. C'est un outil comptable qui a été mis en place par la Direction générale des finances publiques et la Direction générale des collectivités locales. Donc, ils ont émis ce référentiel. Les instructions budgétaires qui en découlent sont des documents officiels. Et la commune a l'obligation de les appliquer. C'est-à-dire qu'il y a une règle qui est établie par l'État et la commune a une obligation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand le service comptable de la ville de Die reçoit une facture, elle dit, d'abord, elle le met au bon budget, puisqu'elle va le mettre au alloi à l'assignissement ou au budget principal, et puis après, elle dit, ça, c'est du fonctionnement, je le mets en fonctionnement. Ça, c'est de l'investissement, je le mets en investissement. Et j'en déduis les amortissements qui sont prévus toujours dans la règle, 5, 10 ou 15 ans. Donc, elle applique la règle. Alors, on pourrait dire, oui, mais elle applique la règle, mais est-ce que peut-être elle se trompe de temps en temps, peut-être qu'elle oublie ou je ne sais pas quoi. Mais non. Et non, parce qu'en fait, il y a un autre organisme, le service de gestion comptable, qui a pour vocation, alors je vais vous dire exactement ce que fait ce service, le service de gestion comptable, il est là pour le contrôle de la régularité des opérations comptables et il est valide. Et il est valide. C'est ça qui est très important. Ça veut dire que la ville affecte en investissement, amortissement ou pas amortissement, suivant la règle, et le service de gestion comptable vient le valider. Et d'ailleurs, en le validant, il le valide sur l'année après, en créant un document qui s'appelle le CFU, le compte financier unique, mais bon, c'est pas, si vous voulez, qui est une sorte de compte d'exploitation de l'année précédente. Donc, tous les chiffres qui sont mis actuellement, qui sont annoncés par la ville, sont des chiffres qui ont été, où elle a respecté la règle et où elle a été vérifiée et validée par l'État. Donc les chiffres des investissements de la ville ne peuvent pas être remis en cause. Ou alors on remet en cause. Alors, peut-être que la règle n'est pas bonne. Que l'amortissement, on ne devrait pas le faire sur 5 ans, ou ça, on devrait l'amortir et pas ça. Ça, c'est possible. Mais moi, je me vois mal monter avec ma petite mallette à la Direction générale des finances publiques ou à la Direction générale des collectivités locales en disant « Oh, moi, je viens de Die, hein, vous connaissez le pays de la Clarette, eh bien, je peux vous dire que ce que vous faites, c'est pas bon. Hein. Ça marche pas, il faut pas le faire comme ça. » Non. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Donc, on applique la règle. Alors, elle est peut-être pas bonne, mais on l'applique. Donc, ça, c'est la première chose sur les investissements. Alors après, bon, c'est pas parce qu'on a mis les bons chiffres qu'on est bon, parce qu'on peut dire, bon, c'est bien les bons chiffres, mais les investissements, ils ont baissé, ils ont faibli. Bon. Donc, il faut être honnête aussi quand on compare. Une mandature, c'est 6 ans. Les 3 premières années, en général, quand une équipe arrive, surtout quand il n'y a pas de continuité, quand une équipe arrive, eh ben, elle commence à dire « on va faire ça, on va faire ces projets, peut-être ». Et généralement, les projets, vu la durée administrative pour les monter, ils arrivent plutôt en fin de mandat. Et ça, c'est de tout temps. Donc, comparer les 3 premières années d'une mandature et les 3 dernières, c'est pas bien. Il faut comparer les mêmes périodes pour dire, savoir s'il y a eu une baisse ou une hausse. Il ne faut pas comparer des années différentes. Donc, le tableau que je vais vous proposer, c'est le tableau des chiffres validés par l'État, et où on va avoir les années des budgets sur les 10 dernières années qui ont été votées par les équipes en place et exécutées par les équipes en place. J'enlève les années 2014 et 2020. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est des années où il y a deux équipes qui travaillent sur un même budget. Il y a une équipe qui le vote et l'autre qui l'exécute. Alors là, on peut toujours dire « Ah ben, je l'ai voté, mais ils ne l'ont pas fait » ou « Je ne veux pas faire un truc qui est nul ». Bon, donc, on les a exclus. Mais si vous voulez, on va les comparer. Donc, si vous voulez, l'investissement sur 21, 22, 23, 24 est de 6,6 millions d'euros et sur 15, 16, 17 et 18, c'est 6,1 millions. Ce n'est pas les 500 000 euros d'écart qui sont importants. Pour moi, il n'y a pas d'écart. C'est la même chose. C'est-à-dire que pour moi, ces investissements sont égaux sur les deux mandatures. C'est le même niveau. Parce que 500 000, c'est vite fait. On a refait la toiture du musée cette année. Si on l'avait fait l'année suivante, les 500 000, on les retrouve en plus ou en moins. Donc, faut pas. Les 500 000 ne sont pas, pour moi, caractéristiques du. Mais ce qui veut dire quand même, c'est que globalement, depuis 10 ans, parce qu'on pourrait prendre 20 et 14, hein, mais bon, depuis 10 ans, le niveau d'investissement de la ville est le même. Et d'ailleurs, dans le rapport régional de la direction des finances publiques, ils disent que le niveau d'investissement de la ville de Die est un bon niveau. Ce qui est un petit peu normal, puisqu'on a beaucoup de besoins. Donc, on est plutôt à un bon niveau. Donc, au niveau des investissements, on peut dire que la ville, je veux dire, a des investissements qui sont validés, qui sont de bon niveau et qui sont à peu près les mêmes sur les 10 dernières années. De toute façon, il n'y a pas de miracle. La ville de Die, elle a globalement, sur une mandature, 11 millions à investir, à peu près. Alors, on va faire 11,5 millions une fois, 12 millions, mais c'est 11 millions globalement. Et sur ces 11 millions, il y a déjà tout ce qui est naturel dans l'investissement. C'est-à-dire qu'il faut refaire de la voirie, il faut refaire de l'éclairage, il y a des choses qui vont revenir, il faut refaire une charpente d'un véhicule, des choses comme ça. Donc, forcément, on a des choses. Donc, l'investissement propre de projets nouveaux, globalement, il va se situer à 5 millions, subventions comprises. Donc voilà, on peut faire une liste à la Prévert hein, sur les besoins ou sur les envies, mais je peux vous dire que la réalité vous rattrapera très vite, très très vite. Donc voilà, donc sur les investissements, on peut dire qu'on est dans une bonne dynamique et qui a toujours été sur les 10 dernières années. Il reste cet excédent. Comme je vous ai dit, cet excédent, il est important. Alors. On a vu un premier rapport, parce qu'il y en a des rapports, hein, un premier rapport en 2021 de la Cour régionale des comptes qui avait dit, qui avait analysé la gestion précédente, d'ailleurs plutôt avec en termes plutôt élogieux, hein, où il n'y avait pas eu de problème, hein, je le dis aussi. Hein, mais ce rapport dit ben pour que la ville puisse bien fonctionner, il faudrait qu'elle ait au moins 800 000 euros d'excédent tous les ans. Avec 800 000 euros, ça devrait rouler. Donc nous, on s'est donc mis en tête de dire ben, on va respecter la proposition de cette cour et on va essayer de tenir les 800 000 euros tous les ans d'excédent, qui permettrait de dire que pour l'investissement, ça pourrait être intéressant. Donc on va voir ce qui a été fait entre 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Voilà. Alors, j'ai retranscrit tout le tableau, mais bon, je vais essayer de vous le simplifier un peu. Voilà. Donc, 784 000 en 2020, 900 000 en 2021, 577 000 en 2022, 1,61 million en 2023 et 1,2 million en 2024. La seule remarque qu'il faut faire, c'est que 2022 et 2023, en fait, il faudrait les additionner et les diviser par deux, ce qui ferait 800 000, parce que 2022, c'est la crise énergétique qui nous a pris beaucoup d'argent, parce que ça coûtait beaucoup plus cher, mais que l'État nous a remboursé l'année suivante. Donc, en fait, c'est un peu faussé, quoi. Je veux dire, on a beaucoup dépensé, mais on nous l'a remboursé, mais pas sur le même exercice. Si on nous l'avait annoncé sur le même exercice, on aurait 800 000 entre 2022 et 2023. Et puis, on a eu aussi un leg d'un administré. Enfin, d'un administré, même pas administré, d'une personne. Alors là. Et s'ils n'avaient pas eu le leg? Et si, mais ils n'ont rien vu, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est une catastrophe. On a l'impression que le ciel nous est tombé sur la tête. Mais moi, je ne sais pas, vous, mais demain, le notaire vous téléphone. Il vous téléphone, il dit bonjour, voilà, il y a un monsieur qui est décédé, il vous donne 200 000 euros. Passez demain matin à l'étude. Bon, peut-être que vous ne dormirez pas très bien. C'est en plus, il y a la pleine lune. Donc, et le lendemain matin, vous allez à l'étude. Et vous arrivez, le notaire vous dit voilà, 200 000 euros. Vous prenez le chèque. Vous prenez le chèque, vous le regardez, puis vous l'encadrez. Ben non, vous allez l'encaisser. Ben nous aussi, on l'a encaissé, ce chèque. On l'a encaissé, et c'est normal de l'encaisser, de le rentrer dans la comptabilité en toute connaissance de cause. C'était un revenu exceptionnel qui nous arrivait. On allait le prendre, et on n'allait pas se poser la question de dire « Et si on ne l'avait pas ? Qu'est-ce qu'on en... Non, on l'a. On prend, on l'a, on encaisse, on le rentre en comptabilité. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, si vous voulez... On peut tirer toutes les conclusions du monde en disant « si vous ne l'aviez pas eu, mais on l'a eu ». Donc, on fait avec ce qu'on a. Moi, je fais avec ce que j'ai et pas ce que je n'ai pas. Donc, on peut en conclure que sur la CAF, on a tenu nos objectifs. On a tenu notre engagement des 800 000, bien sûr avec le Lec Boissy, mais bon, on l'a eu, hein. On n'avait pas été voir le notaire en disant « Non, non, écoutez, monsieur le notaire, donnez-le à une autre commune qui en a plus besoin que nous. On n'en a pas besoin. » Ben, on l'a pris, voilà, je sais pas, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces trois critères? C'est que l'endettement, et je dirais sur les 10 ans, hein, parce que, bon, moi, je suis pas là pour dire « nous bien, et les autres... » Sur les 10 ans, l'endettement a été maîtrisé, l'investissement a été de bon niveau, et puis la CAF était conforme aux prévisions. Voilà. Donc, ce soir, je pourrais vous dire, ben, c'est bon, rentrez, tout va bien, tout va bien. Je vous ai pas fait venir pour grand-chose, mais bon, tout va bien. Ben non, parce que j'ai quand même un devoir d'honnêteté, je veux pas tricher avec vous, et il faut qu'on vous dise ce qu'il en est exactement. Vous pensez bien que s'il y a 2 ans, on a eu ce dialogue avec la direction des finances publiques, c'est bien qu'on voyait que notre budget fonctionnait bien, mais qu'il y avait quelques points de tension. Et quelques points, on se disait, là, c'est un peu juste, voilà. Alors, c'est toujours intéressant, c'est pour ça qu'on leur a demandé de faire ce rapport, c'est toujours intéressant parce qu'au moins, on avait un œil extérieur. Vous savez, quand on est né dans le guidon, souvent, on regarde, et puis au bout d'un moment, c'est important que quelqu'un vous dise, vous confirme ce que vous pensiez, ou vous l'infirme, mais vous le confirme, et vous dit, ben voilà, oui, c'est vrai que là, tout va bien, mais... Eh bien, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit, tout va bien, mais... Et donc, il y a quelques points de tension sur notre budget. On l'avait déjà, d'ailleurs, mentionné dans le budget primitif en 2025, quand on l'a voté, on l'avait dit, mais c'est vrai que peu de gens écoutent ou regardent ce qui se passe au conseil municipal. Donc, c'est peut-être plus intéressant de faire des réunions publiques comme ça avant pour au moins expliquer. C'est vrai qu'un des points sensibles, c'est cette CAF. On voit bien que cette CAF, elle est extrêmement importante. Parce que, à la fois, comme je vous ai dit, elle reflète le fonctionnement, mais plus elle se réduit, plus elle est faible, plus elle impacte les investissements, parce qu'il va falloir soit plus emprunter, soit moins investir. Donc, elle est extrêmement importante, et donc, elle s'affaiblit. Alors là, il y a deux façons de faire. Soit on dit, oula, la CAF s'affaiblit. Vous avez vu, c'est la mauvaise pente. C'est même le bord du gouffre. Ils sont pas bons, hein. Vite. Ils sont vraiment pas bons en gestion. Hein. Changez-les vite. Ça, c'est la première façon de stigmatiser en disant « mais voilà ». Et puis, il y a une deuxième solution. C'est celle que je préconise. Je suis presque sûr que vous la faites souvent. Quand on a un problème, quand on a une difficulté, on va en chercher la cause ou les causes. Et puis, quand on a trouvé là ou les causes, on essaye de trouver les solutions. Je me sens beaucoup plus constructif que de stigmatiser en disant « c'est des mauvais gestionnaires, c'est des incapables ». Alors l'incapable, c'était moi quand même dans le monde. Donc c'est quand même plus intéressant d'aller chercher les causes et d'essayer de trouver les solutions. Et c'est ce que je vous propose de faire sur cette fameuse capacité d'autofinancement, sur cet excédent. Alors cet excédent de fonctionnement... On voit bien que c'est la différence entre les recettes et les dépenses. Là, je n'ai pas inventé grand-chose en vous disant ça, mais enfin bon. Donc, on pourrait se dire, ben, ça vient des recettes. Les recettes sont moins bonnes. Les recettes ont diminué, ou elles n'ont pas été à la hauteur. Et donc, du coup, l'excédent, il est moins important. Ben non, ce n'est pas ça. Le rapport dit, dans le terme très administratif des rapports, dit, les recettes de la ville de Die sont stables. Bon. Ça veut dire circuler, il n'y a rien à voir, l'État fait... Voilà. Donc, ça veut dire que c'est stable, c'est pas exceptionnel, ça a suivi à peu près le coût de l'inflation pour eux. Voilà, il n'y a pas de recettes supplémentaires. Bon, enfin, pour eux, c'est stable. Donc, l'effritement de la CAF, elle vient du fonctionnement. C'est-à-dire que le fonctionnement, les dépenses, petit à petit, a pris un tout petit peu plus de place par rapport... aux recettes. Et donc, cette CAF a tendance un peu à s'affaiblir. Alors, il faut aller voir pourquoi cette CAF s'affaiblit. Il y a deux raisons. Il y a deux grandes raisons. Alors, je ne vais pas vous les donner, mais deux groupes de raisons. La première raison, une des premières raisons, c'est qu'il y a une action politique, et il y a une action politique qui a joué sur ce fonctionnement, sur ces dépenses. Et puis après, il y a une action subie par la ville, et on va voir de quelle façon. Sur l'action publique, l'équipe, quand elle est arrivée, quand elle s'est mise en place, elle a fait un travail, par exemple, de restructuration des services. se disant qu'il fallait remettre un petit peu de, pas d'ordre, mais d'une autre façon de travailler, plus en adéquation avec le nouveau siècle. Et donc, on a recruté, c'est vrai, six agents globalement, un à la police municipale, un à la communication, un au service d'appel à la concurrence et suivi des subventions, et puis au service technique. Alors on peut nous dire, mais la police municipale, il n'y a pas besoin de police municipale en plus. Non. La communication, mais il y a le petit Diois, ça suffit largement, vous parlez de la communication. Ça, c'est le débat politique, ce n'est pas le débat de ce soir. C'est-à-dire que ça, moi je vous dis qu'on a fait cette action, ce n'est pas le moment de juger cette action, mais forcément elle a un impact sur le fonctionnement, parce que quand vous créez 6 emplois, forcément ça vous crée des dépenses de fonctionnement en plus, puisqu'il y a 6 salaires à payer, 6 charges sociales à payer. Donc ça c'est une première action. On a aussi augmenté les subventions aux associations de 30%. En moyenne. Alors là aussi, on peut dire, mais les associations avant, elles n'avaient pas de subvention, elles s'en sortaient aussi bien. Ben, nous, on pense que la vie associative, c'est un élément important de la cité. C'est le débat politique qui aura lieu dans quelques mois. Peut-être qu'il y a des équipes qui diront, faut les diminuer. C'est le débat politique, c'est pas mal. Et puis, on a augmenté aussi la participation au centre communal d'action sociale. Alors, je sais qu'il y a des discours des fois plus radicaux sur ce type de population. On va se mettre à travailler. C'est le débat public. Ce que je veux dire, c'est que notre action, et qu'on revendique, qu'on assume, on n'est pas là pour dire, on l'assume. Notre action, qu'on assume, elle a un coût. Et ce coût, bien sûr, il va se retrouver dans le fonctionnement et dans les dépenses. Et puis, on a subi énormément de choses. Alors, et là, quand on subit, on ne peut rien y faire. Je vais vous en donner quelques-uns, mais la liste est très, très longue. Le centre des pompiers, par exemple, aujourd'hui, il est géré par le département. Ça s'appelle le SDIS, bon, peu importe. Et le département demande une participation à chaque commune, à toutes les communes, en proportion de leur population. Et donc, la ville de Die participe normalement. Cette participation était de 150 000 euros en moyenne sur l'ancienne mandature. Elle est à plus de 200 000 euros maintenant. Et on ne voit pas même comment elle va baisser. Les assurances. Alors bon, les assurances. Ça, on en a souvent parlé, longtemps parlé, mais les assurances. On va en reparler ce soir encore une fois, mais il n'y a pas la télé. Les assurances. Plus personne ne veut assurer les communes. C'est un vrai casse-tête chinois. Pour vous donner un ordre d'idée, 40 000 euros de primes d'assurance en 2021 à 120 000 cette année, même si on a eu une bonne nouvelle hier soir au conseil municipal, on va rester à 100 000, il y a une augmentation extraordinaire de l'assurance. On a aussi, par exemple, cette année, subi au niveau de la masse salariale une augmentation de la caisse de retraite des agents de la collectivité, c'est 60 000 euros de plus, et c'est 60 000 euros cette année, plus 60 000 euros pendant 3 ans, ce qui va faire globalement 240 000 euros à sortir en plus. Et puis aussi, on a quelque chose qui nous a fortement impacté, c'est l'énergie, les coûts de l'énergie. Sur l'ancienne mandature, enfin sur la mandature précédente, le coût moyen de l'énergie par an était de 286 000 euros. Il est cette année encore 400 000 euros. Alors là, on nous dit, oui, mais vous êtes des coquins, hein, parce que dans le flash, vous dites, mais on a baissé la consommation, et ça ne se voit pas. En fait, il ne faut pas confondre consommation et facturation. Vous achetez 1 000 litres de fuel à 1 euro. Ça fait 1 000 euros. Vous baissez votre consommation de 20%, vous achetez plus que 800 litres. Mais s'il est à 1,25, vous payez toujours 1 000 euros. Donc c'est exactement ce qui est arrivé à la ville de Die, c'est-à-dire qu'on a réellement baissé notre consommation. Tous les indicateurs, toutes les factures montrent qu'on a baissé notre consommation. Seulement, ça ne s'est pas vu concrètement ou assez concrètement sur la facture. Mais si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas 400 000 à payer. On aurait 500 000 ou 520 000. Donc, il y a un effort qui a été fait et qui a été fait aussi grâce à vous. L'extinction nocturne, que les associations au gymnase acceptent pendant les vacances, on baisse la température. Enfin, il y a tout un effort qui a été fait. Nous aussi, on en a fait un. On a changé on a mis beaucoup de LED, des choses comme ça. Mais c'est des choses qui se voient dans le temps. Parce qu'on ne va pas d'un coup dire, on va rénover tous les bâtiments, on va les mettre tous en basse consommation, ça c'est pas possible. Donc c'est quelque chose qui arrivera dans le temps, mais ça a eu un impact important. Ça fait 110 000 euros de plus à sortir par an à ce niveau-là. Voilà. Donc, si vous voulez, tous ces éléments-là, on les avait vus arriver, on les avait vus dès dès 2024 et dès 2025. D'ailleurs, le dernier budget. D'abord, ce qu'il veut dire, c'est qu'ils ne sont pas arrivés tous d'un coup. Hein. Ça arrive petit à petit. C'est-à-dire que vous en avez un une année, puis après, on vous dit ça va mieux, puis il y en a un autre. Puis... Donc, ce n'est pas quelque chose. Si un jour on disait il y a 300 000 euros d'augmentation pour l'année prochaine, on le saurait. Tandis que là, c'est des augmentations assez insidieuses. Et puis, même des fois, on en voit qui baissent, puis après, ça remonte. Donc, bon, c'est un peu insidieux que c'est monté comme ça. Donc, on le savait, on l'avait vu, et on sait. D'ailleurs, on l'a prévu au budget prévisionnel de cette année, on l'a marqué, que nous ne tiendrions pas le montant de la CAF de 800 000, puisqu'on l'a annoncé à 722 000. Donc, on avait déjà conscience que cette année, malgré quelques efforts qu'on a fait sur les fournitures et sur d'autres éléments, on ne pourrait pas tenir les 800 000 euros et qu'il faudrait agir dès 2026, pour 2026. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de se dire... On a conscience qu'il faut... Alors, je dis agir et pas réagir. Hein. Parce qu'on réagit quand on est dans l'urgence. On agit quand on est dans la réflexion. Et on est dans la réflexion depuis quelques années sur ce budget. On n'est pas dans la réaction en disant « Oula, ça va mal, vite !» Non, on n'est pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est ce qu'on veut dire, mais c'est pas du tout ça. On a tout à fait conscience de où on va, et on sait comment on va en sortir. Mais c'est quelque chose de très réfléchi. Donc, il va falloir qu'on travaille sur... les trois points dès le budget 2026. Le premier point, c'est sur l'investissement. Je me marre parce que, sur l'investissement. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on est arrivé, la Cour régionale des comptes nous avait dit il faut faire un PPI, un plan pluriannuel d'investissement, il faut que vous prévoyez ce que vous voulez faire, tout ça. Et donc, on a fait un PPI. Alors moi, je dis... parce que quand on est jeune, un nouveau élu, jeune élu, on veut renverser les tables et puis qu'on n'a pas d'expérience, et puis parce que, bon, on veut faire. Et puis, bon. Donc, je dis qu'on avait fait un PPI un peu trop ambitieux. Isabelle, je me marre parce qu'Isabelle me dit, mais non, c'est pas ça, Jean-Pierre, pas du tout. C'est que les mairies n'ont plus les moyens de leur ambition. Bon, on n'a pas résolu le petit désaccord qu'on a entre nous. En tous les cas, il était un peu trop gros, le PPI. On est d'accord là-dessus. Il était un peu trop gros. Il était peut-être un peu trop important. On disait peut-être un peu trop... Bon, c'est comme ça. Donc, voilà ce qu'on va faire. C'est que dès 2026, on va engager au budget que ce qui est vraiment engagé, déjà. On ne va pas mettre de nouveaux projets. Parce que le but, ce n'est pas de créer encore... On ne va pas engager. Par contre, dans les tiroirs, on va proposer, avec les études qu'on a faites, parce qu'on fait des études... Ça arrive. Avec les études qu'on a faites, on va laisser dans les tiroirs les projets qui seront demandés à la commune de Die, comme à toutes les communes dans les années qui viennent, pour qu'elles se mettent en conformité avec le degré tertiaire. Alors, ça, c'est encore une chose, c'est un nouveau truc qui arrive d'en haut. Le degré tertiaire, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit en 2030, il faut que la commune baisse sa consommation d'énergie de 40%. Il faut qu'en 2040, elle le baisse de 50% et en 2050, de 60%. Voilà vos objectifs, messieurs, en parlant aux communes. Ils le demandent aussi aux entreprises, à d'autres personnes, mais ils le demandent à nous. Donc nous, on est obligés de commencer à travailler dans ce sens-là. Donc il y aura dans les tiroirs des études qui permettront à la future équipe de voir quelle priorité elle prendra pour rentrer dans la conformité ou qu'elle ne prendra pas. Elle fera comme elle voudra. Et puis, je pense qu'il y a une chose qu'il faudrait qu'elle soit faite, c'est que le PPI qu'on a fait, on l'a fait sur 2023 et 2028. On n'avait pas bien le choix, hein, mais c'est pas bon de le faire sous mandature. Ça marche moyennement. Enfin, à moins que la mandature, tout le monde soit reconduit. Mais bon, c'est... Bon, voilà. Donc, il vaudra mieux que... Ben, non, c'est pas sûr, ça. Hein. Donc... Puis il faudrait se présenter, en plus, pour être... Isabelle veut pas se représenter, alors donc, déjà... ce que je veux dire, c'est qu'il vaudra mieux que le nouveau PPI soit fait là, avec la nouvelle équipe qui pourra le mettre en adéquation avec sa mandature. Ça sera beaucoup plus logique, et ça permettra à elle aussi de mieux lisser ses investissements et ses investissements dans le temps. Donc je crois que c'est le premier travail qu'on va faire, nous, et que, après, la future équipe fera bien ce qu'elle voudra. Il nous faudra aussi travailler sur le fonctionnement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si maintenant on part du principe que l'on a globalement le nombre de d'agents qu'il faut, même si on pouvait en avoir plus, mais globalement on les a, il va falloir qu'on soit plus efficient sur la gestion de la masse salariale. Parce que quand on est arrivé, on naviguait à vue. Hein. Alors on a quand même pas mal travaillé depuis, mais il y a encore un gros travail à faire. pour que cette masse salariale soit mieux gérée. Pourquoi on prend un saisonnier? Pourquoi on en prend deux? Pourquoi on n'en prendrait pas qu'un? Parce que quand on a un saisonnier, le temps qu'il apprenne le boulot, après il s'en va. Enfin bon, il y a un gros travail à faire sur la masse salariale. Et maintenant qu'elle est, je dirais, à peu près stabilisée en nombre, il faudrait se fixer à une sorte de progression relativement modeste de cette masse, de 2% par an, pour qu'on puisse dire que voilà, on la maîtrise. Et nous, dès 2026, on va s'engager sur ce chemin. Après, les successeurs feront bien comme ils voudront, hein, mais on va s'engager sur ce chemin. Il faut qu'on maîtrise mieux. Après, il y a d'autres éléments à maîtriser, mais je veux dire, la masse salariale, elle représente plus de 50% des dépenses de fonctionnement. Donc, c'est un élément important. Donc, il faudra qu'on arrive à mieux la maîtriser. Et puis, il faudra aussi qu'on augmente nos recettes. Alors là, les recettes, vu que la ville de Die est beaucoup plus dépendante que toutes les autres villes des dotations de l'État, deux fois plus dépendante que toutes les communes de la Drôme, et que l'État n'est pas dans un bon état, ou du tout moins le budget, on ne sait pas trop, on peut tout à fait penser, et je pense que ça va arriver très vite, que les dotations de l'État, elles vont être amenées à baisser, voire à stagner. Donc ça, c'est quelque chose qui nous pend au nez dans les années qui viennent. Parce que c'est tellement plus facile de dire que le déficit de l'État, il vient des collectivités territoriales. Je vous signale que c'est le message qu'on entend souvent à la télévision, en disant « Oh ben, le déficit, il vient en grande partie des collectivités territoriales, c'est-à-dire des communes, des départements, des régions qui dépensent sans compter. Alors que nous, on fait des budgets équilibrés tous les ans, mais eux, non, sans compter. » Donc forcément, il y a un moment donné où les dotations vont baisser. Et il nous faudra augmenter nos recettes propres, qui sont soit les redevances, soit l'impôt. Il faudra qu'on augmente légèrement, mais qu'on l'augmente. Ça veut dire qu'il nous faudra appuyer à la fois sur les trois boutons, alors de façon modérée et intelligente. Ce n'est pas décidé. Je vous le dis aujourd'hui, je ne vais pas vous dire, sortez pas en disant hey, « il a dit qu'ils allaient faire ça ». Ce n'est pas décidé. L'équipe y travaille, elle a ses pistes de travail. On les dira de toute façon, parce qu'on a à les dire en fin d'année, au rapport d'orientation budgétaire, on aura à l'évoquer. Mais c'est vrai qu'on est sur ces trois pistes aujourd'hui, parce qu'il nous semble indispensable de retrouver cette CAF pour qu'elle puisse avoir de nouveau une capacité pour que dès fin 2026, on se retrouve dans la continuité du rapport de la Direction générale des finances publiques qui dit c'est correct, faites toujours attention parce que tous les budgets de la ville de Die sont toujours été tendus. Et donc, voilà. Donc, c'est sur ces points-là qu'on va travailler. Donc, pour en finir, j'espère que vous n'avez pas trop embêté et que personne n'a décroché. Pour en finir, pour résumer assez simplement, je dirais que la ville de Die, elle est bien gérée. Et je dis bien gérée depuis 10 ans. Moi, je suis pas là pour dire « nous, c'est bien », puis les autres, non, bien géré, je veux dire. Alors, après, on peut discuter des investissements, j'aurais pas fait ci, j'aurais fait ça, mais elle est bien gérée. Et donc, elle est endettée plus que les autres, mais c'est sa structure même qui le fait. Donc, la ville, elle est bien gérée. C'est vrai que notre équipe a toujours travaillé dans la continuité pour qu'on rende une ville qui ne soit pas au bord du gouffre ou dans le gouffre. Non, on la rendra en bonne santé. Donc, on le savait depuis quelque temps que parce qu'il y a des choses qu'on a subies et parce qu'on a aussi une action politique, il fallait qu'on fasse quelque chose sur le budget 2026. On le fera. Et donc, ce qui fait que fin 2026, là, le budget sera un budget correct, dans le sens que, comme dit la Direction générale des finances publiques, et je laisserai, en tant qu'adjoint aux finances, une ville en bonne santé. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Alors, on va prendre les questions. Je vous ai bien vu. Donc, deuxième partie, on va essayer de tenir le tempo. On va dépasser certainement, on va essayer de tenir le tempo. On va essayer, hein, puis si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis. De prendre plusieurs questions, de voir si on peut les regrouper. Et on fera des réponses adaptées le mieux possible. Donc, c'est Fabienne qui va promener le micro. Voilà. Et puis, bonne question.
Là, on a deux questions.
Là et là.
Je commence déjà par les deux questions.
Okay. Oui, là, une question courte, hein, t'as pas dit courte.
Merci. Bon, j'étais un peu surpris que vous ne me nommiez pas, hein, en toute simplicité, puisque je dois le dire, je suis l'auteur d'un rapport d'analyse des finances de la ville d'Audi, où je n'ai pas dit d'ailleurs qu'il s'agissait de mauvaise gestion. J'ai simplement conclu, et je maintiens ma conclusion, je dis que les finances de la ville d'Audi sont sur la mauvaise pente. Ce n'est pas forcément la responsabilité des élus actuels. Je dis simplement que les finances sont sur la mauvaise pente, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Bien. Alors, ceci étant dit, ce que je voudrais observer avant de faire ma question, c'est que, certes, ce que vous avez dit rassure votre public. Évidemment, ce n'est pas entièrement faux, hein, il ne faut pas se raconter d'histoire, mais disons simplement que vous avez fait une présentation. Alors, je vais utiliser le terme que vous avez utilisé en conseil municipal du 23 septembre, une présentation que je qualifie de tronquée. Je le dis tout de suite pour qu'on ne rentre pas dans des discussions qui n'en finiraient pas. On n'est pas là pour discuter du fond du sujet. Hein. Je vais y revenir. Je voulais camper ce décor pour vous expliquer dans quel esprit je regardais ça. Donc, bref, je ne suis pas convaincu par les propos que vous avez tenus. D'ailleurs, Monsieur Bertrand, vous le savez. Oui, j'y viens, mais il faut quand même justifier sa question. Elle est suffisamment importante et les 10 ont le droit de savoir. Donc, je suis désolé, mais je maintiens. Hein. Et donc, Monsieur Bertrand, non seulement je vous ai envoyé mon rapport au moins 15 jours avant ma réunion publique, ensuite, dans la foulée du conseil municipal, le 27 septembre, je vous ai écrit en vous expliquant dans quel esprit cordial, loyal, honnête, nous pouvions regarder ensemble de façon contradictoire les réalités que j'invoque dans mon rapport. J'attends toujours la réponse. Il faut dire qu'au fond, je ne suis pas tout à fait surpris, parce que j'avais déjà souhaité publiquement qu'il y ait un débat loyal, contradictoire sur l'hôpital. Nous ne l'avons pas eu. Éric Bellevaux, qui m'avait reproché de prendre des positions publiques, m'avait reproché...
Question.
Eh bien, ma question... C'est quoi la démocratie, hein? Bon. Non. Voilà. Alors, la question est très simple. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on travaille sur une analyse contradictoire de l'ensemble des chiffres de la ville de Die et qu'à l'issue de ce travail contradictoire, nous en rendions compte publiquement, sachant que personnellement, je m'engage, si j'ai dit des conneries, à le reconnaître publiquement.
Alors... Ben on prend la deuxième, si vous voulez, mais je peux... Oui.
Oui, je vais essayer d'être un... Bref. Et je pense que les Diois ont aussi le droit de savoir qu'à titre personnel, je suis très satisfait de la préparation de cette réunion et de la qualité de l'intervention, de la présentation. Ma question est un peu technique, je suis désolé. On a parlé de la CAF et de l'encadrement un peu de la CAF avec les niveaux qui étaient donnés par la DGFiP. Existe-t-il un encadrement un peu identique pour le fonds de roulement, dont on n'a pas parlé? Désolé, c'est un peu technique.
Oui, non, c'est pas technique, c'est très intéressant. J'y répondrai.
D'autres questions?
Allez, je vais prendre ces deux premières questions, ça fera venir les autres après. Bon, monsieur Vira, d'abord, juste pour vous dire que vous m'avez invité à votre première réunion. J'y suis pas allé parce que on avait conseil municipal ce jour-là. Et donc, voilà. Vous avez fait une deuxième réunion dans un lieu privé. Et moi, je ne me rends pas dans un lieu privé pour parler des finances publiques. Je suis désolé. Je pense que il y a des endroits pour parler et un lieu privé que je respecte complètement, qui est, je ne veux pas discuter de finances publiques dans un lieu privé. Vous m'avez, c'est vrai, fait un courrier en me disant il faut qu'on en discute. Mais, et vous dites il faut qu'on en rediscute. Mais, monsieur Vira, je ne veux pas discuter avec vous. pas parce que vous êtes quelqu'un avec qui je ne peux pas discuter. J'ai un rapport fait par la direction des finances publiques. Alors, si vous pensez que ces gens-là sont des incompétents et qu'ils ont raconté n'importe quoi dans leur rapport, eh ben, vous avez le droit de le croire. Moi, j'ai plutôt tendance à les croire, eux. Bon, donc, ce rapport-là, il existe. Il dit des choses, mais il ne dit pas que des choses... quand j'ai dit qu'il y a des points de tension et des points d'alerte, c'est dans ce rapport. Il dit globalement, dans les 5 dernières années, c'est correct, mais attention. Donc, tous les chiffres qui sont là-dedans sont les chiffres de l'État. Alors, on peut remettre en cause la compétence de ces gens-là, mais moi, je ne la remets pas en cause. Donc, je ne vais pas, avec vous, aller éplucher de nouveau les comptes de la ville pour sortir. Je ne le ferai pas. Ce rapport, vous pourrez en avoir connaissance, mais si vous voulez, je ne veux pas rentrer dans ce débat. J'ai, moi, la base de ça pour la ville, pour cette année, pour le budget de l'année prochaine et pour la prochaine équipe, parce que la prochaine équipe, elle le trouvera le rapport dans mon bureau, hein, enfin dans mon bureau, je ne sais pas où il sera, mais il sera disponible et ils pourront le lire et ils pourront l'utiliser. Donc je ne vais pas m'amuser à passer encore du temps. Ce n'est pas que je vous aime pas, mais vraiment j'ai autre chose à faire. Je suis désolé de dire ça. Fonds de roulement. Alors ça, c'est une question à la fois technique et extrêmement intéressante, parce que c'est un reproche de M. Vira sur le fonds de roulement. Confond un peu trésorerie, fonds de roulement, mais quand même, c'est un reproche. Il dit, oulala, alors qu'est-ce que c'est d'abord le fonds de roulement ? Le fonds de roulement, c'est en fait les excédents que la commune a à chaque fin d'année. Et ces excédents, on les porte sur ce fonds de roulement. C'est-à-dire que si sur une ligne budgétaire, on avait prévu de mettre 100 000 euros, et que pour des raisons X ou Y, on a fait l'opération pour 80 000, il va rester 20 000 euros qu'on va mettre dans ce fonds de roulement. Et c'est l'accumulation de ces excédents qui va créer le fonds de roulement. Je fais simple parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il est vrai que le fonds de roulement a baissé sous notre mandature. C'est-à-dire que quand on reprend ce schéma-là, on voit qu'il a baissé. Alors pourquoi il a baissé ? Et là, c'est le vrai débat qu'on pourrait avoir en dehors des chiffres. C'est le vrai débat, parce que ça, c'est un débat de politique comptable. Parce que nous avons pensé... Alors le fonds de roulement, il a baissé. Et d'ailleurs, le rapport de la Direction générale des finances dit « Attention, il a baissé, il faut pas aller en dessous. » Pourquoi comment on a fait ? Quand on a eu des investissements à faire, on avait deux choix. Quand vous faites des investissements, soit vous empruntez sur ce qui manque, soit vous allez le prendre dans le fonds de roulement. Puisqu'il y a du fonds de roulement qui est là, vous allez le prendre. Et nous, on a fait le choix de le prendre dans le fonds de roulement. Pourquoi ? Parce qu'on avait des taux d'emprunt qui montaient, et on s'est dit, il vaut mieux le prendre dans le fonds de roulement. Mais on peut me dire le contraire. Il y a quelqu'un qui peut apporter la contradiction comptable en disant « Non, mais ce n'est pas une bonne idée de prendre fonds de roulement, il valait mieux emprunter. » Voilà. Mais c'est deux visions comptables. Nous, on assume celle qu'on a fait. Je ne dis pas que c'est la bonne, hein, parce que là, je ne suis pas non plus... je ne dis pas que c'est la bonne. C'est un vrai débat qui pourrait avoir des gestionnaires de comptabilité publique. C'est un vrai débat en savoir est-ce qu'il fallait prendre le fonds de roulement, est-ce qu'il fallait faire l'emprunt. Donc oui, notre fonds de roulement, il a baissé. Oui, on l'a fait sciemment en disant qu'on ne voulait pas emprunter, mais c'est vrai qu'il faudra qu'on le reconstitue, ou du tout moins qu'on le remette à un petit niveau dans l'année 2026. Donc c'est un fait, mais c'est à mon avis, plus un choix de politique comptable, mais qui est discutable. Moi, je veux bien croire qu'on puisse me dire « Non, il ne fallait pas prendre le fonds de roulement, il fallait emprunter. » Je ne sais pas. Nous, ce qu'on nous a conseillé à un moment donné, parce que là aussi, on suit les conseils, on nous a dit « Faites plutôt ça. » Bon, après, moi, pas non plus la science infuse. Hein.
Autre question ?
Ah, allez.
Merci pour cette présentation. Moi, j'ai une question par rapport aux besoins des bourgs-centres. Vous avez évoqué effectivement qu'il y a 1 000 euros en gros par habitant,
1050,
comparé à plus de 700 pour le département de la Drôme et à plus de 800 pour la région. C'est une difficulté qui est liée effectivement à la qualité des investissements, enfin, la qualité des équipements, à l'énergie de la ville de Die. J'imagine que ce problème-là, il existe dans d'autres villes. Et y a-t-il un moyen, et ça existe depuis très longtemps, un moyen aussi d'interpeller éventuellement les intercos pour venir justement gérer cette problématique financière et d'autres, enfin l'État, etc. Et comment réagissent les autres institutions par rapport à cette enfin voilà, au fait que Die et d'autres villes en France, j'imagine, mais bon, moi j'ai pas la.
Alors on a quelques problèmes. On a quelques dotations qui sont liées un peu à ce bourg-centre, mais loin des besoins. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la situation de communes, comme dit, est extrêmement minoritaire et très particulière. Je ne suis pas persuadé qu'il n'y en a pas d'autres dans la Drôme. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a peut-être en Lozère, une, ou en Corrèze, ou je ne sais pas. Enfin, je dis ça, mais il y en a très peu. Très peu. Donc, vous comprenez bien que l'État, lui, il fonctionne pas en épiphénomène. À moins qu'on fasse l'association des bourgs ruraux et qu'on arrive à retrouver 25 communes, qu'on monte au ministère de l'économie et des finances en disant voilà, on existe. C'est un épiphénomène. Donc, on a beaucoup de mal. Alors, les sous-préfets ou les sous-préfets, quand ils viennent, ils reconnaissent, ils le voient très vite, qu'on est particulier, que c'est très particulier. Ils disent on va vous aider le plus qu'on peut, quoi. Mais bon, voilà, ils aident par rapport à leur contrat de petite ville de demain, des choses comme ça qui sont arrivées, qui ont permis d'apporter à la ville. Mais on n'a pas on pèse pas. Aujourd'hui, la ville de Die, elle ne pèse pas quand elle discute avec Nyons, avec Saint-Marcel-les-Valences, avec. Pèse pas. Eux, ils ont tout autre problème. Donc nous, on ne pèse pas et on est seul dans la Drôme à avoir cette caractéristique. Et donc, c'est vrai que c'est un vrai problème. Et ça va peser d'autant plus que, on nous a, par exemple, sur la médiathèque, aujourd'hui, la médiathèque, on doit verser. Et encore, on le partage avec la Comcom. La Comcom fait la moitié, nous on fait la moitié. On est une des rares communautés de communes qui a accepté de participer à la médiathèque. Ça coûte 62 000, 65 000 euros à la ville. Là, le département nous a annoncé 22% d'augmentation. Allez-y, si vous voulez garder votre médiathèque, 22% d'augmentation. Circuler, il n'y a rien à voir. Ah, si vous ne voulez pas les donner, ben on ferme, on réduit les heures, on fait. Si vous voulez la conserver, 22% d'augmentation. Ben, moi, voilà. Alors, bien sûr qu'on sait que toutes les collectivités territoriales aujourd'hui, elles sont. Vous savez, c'est l'effet entonnoir, hein, c'est-à-dire que la région a moins d'argent, le département a moins d'argent, et puis qui c'est qui est en bas? C'est nous. Hein.
Autre question.
C'est bien qu'on soit revenu sur cette image. On n'a pas parlé de ces points rouges.
Oui.
Charges réelles financières, oui. Qui, contrairement aux dettes qui sont stables, là, la forme est en V.
Oui, c'est les intérêts. C'est les intérêts du capital. Parce qu'en fait, dans le budget, quand on parle. Quand si vous remboursez un prêt à votre banque, vous remboursez 1 000 euros. Mais vous n'allez jamais voir ce que vous remboursez en capital et ce que vous remboursez en intérêts à la banque. Tandis que nous, on est obligé de le dissocier. Quand on rembourse le capital, on le met dans l'investissement. Et quand on rembourse de l'intérêt, on le met dans les dépenses de fonctionnement. Donc c'est les dépenses de taux d'intérêt qu'on rembourse tous les ans. Alors, il a baissé. Alors, pourquoi il n'est pas stable? Parce que d'abord, il a tendance à augmenter parce que les taux d'intérêt ont bien sûr tendance à augmenter. Et puis après, ce n'est pas linéaire non plus les emprunts de la ville. Une année, on va emprunter 500 000, une année 800 000, une année 1 million. Donc, il y en a qui arrivent à échéance d'emprunts. Donc, il suffit que sur l'année, par exemple, 2022, il y ait quelques emprunts qui soient arrivés à échéance et qu'on ait moins emprunté cette année-là. Du coup, on a moins de remboursement d'intérêts à faire, quoi. Mais c'est les intérêts de. Je vais juste vous montrer aussi. Un autre tableau que j'ai zappé, mais je vais vous le montrer parce qu'il est intéressant. Il ne peut plus passer là. Je ne sais pas, ça ne marche plus. Si je. Voilà, c'est celui-là. Je voulais pas passer parce que c'est la capacité de désendettement de la ville. C'est un truc assez technique, mais ça veut dire que globalement, la ville aujourd'hui, elle est dans un ratio entre 3 et 6 qui fait que on est endetté si on n'est pas dans ce ratio de 3 et 6. Sur la durée, sur les 5 ans, on voit qu'on est à peu près entre 3 et 6. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la loi de programmation de finances publiques des collectivités locales a défini le niveau où on considère que la ville est endettée. Et le niveau où la ville est endettée, c'est pas 4, c'est pas 8, c'est 12. C'est-à-dire que quand une ville a un ratio de 12, là, on peut dire que la ville est endettée. Donc on voit bien que la ville de Die, elle n'est pas endettée. Elle a un ratio de désendettement, une capacité de désendettement qui est tout à fait dans la logique entre 3 et 8. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'on est endetté, mais pas surendetté, quoi, je veux dire. Il y avait Nicolas.
Ouais, ma question est très simple. Est-ce que vous pensez qu'en termes de recherche de subventions, l'équipe actuelle est performante?
Alors, j'ai lu dans le rapport de M. Virin qu'il a marqué, et ça je m'en rappelle très bien parce que je ne l'ai pas très bien vécu, est-ce que les subventions ont au moins été demandées? Bon. Vous l'avez écrit, ça? Ah ben, je vais vous le montrer de suite, M. Virin. Non. Bon, je vous le montre de suite. Est-ce que les subventions ont au moins été demandées? Je trouvais ça très, très... Enfin, pas bien pour les services. Pour moi, je m'en fous, moi, qu'on me dise que je ne demande rien. Mais ce n'est pas nous qui les demandons, en plus, c'est les services. Donc, ben non, ce n'est pas les élus qui demandent des subventions. Non, je suis désolé. Non, mais je vous explique. Les élus, ils ont un rôle de relation avec la présidente du Conseil général, avec la région, avec l'État via la sous-préfecture, avec les fédérations de sport, par exemple, pour les appels à projets. Les élus, ils vont les voir. Ils leur disent, nous, on fait quelque chose. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous pouvez aider? Et ces structures disent, ben oui, on peut venir, on peut vous aider. Donc, ils nous aident. Et après, c'est les services qui vont faire la demande officielle, l'envoyer, et que cette demande soit après accepté et validé. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on demande assez? Oui, on demande. La problématique qu'il y a aujourd'hui, je ne vous le cache pas, c'est que on voit très bien que ça va être de plus en plus difficile en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je vous donne le dernier exemple qu'on a eu, on rencontre la région. On rencontre la région, et la région nous dit sur le projet de rénovation du skatepark, on va vous donner 92 000 euros. Parce que on a l'enveloppe, patati patata. Bon, donc on vous donne 92 000 euros. Donc on fait la demande, nous, vite. On fait la demande, on l'envoie. Et là, on vient de recevoir la réponse. 46 000 euros. Et pourquoi? Ah, bah parce qu'on n'a plus d'argent. Donc, on fait un projet. En ayant rencontré le conseiller régional, en ayant les techniciens de la région qui sont venus avec lui. Il n'est pas venu tout seul comme élu en disant ils étaient là avec leur tableau, leur tableur, leur machin. Oui, bah, 10 ont droit. Oui, bah, là, vous n'avez pas de voix. C'est bon, c'est tout bon. Tout va bien. Donc faites la demande. Ouais, pas de problème, faites la demande. Mais c'est bon, vous l'aurez. Et là, on vient de le recevoir il y a peut-être un mois, 46 000, la moitié. On téléphone. Ah ben, on n'a plus d'argent. Donc, on fait les demandes de subventions. Elles sont de plus en plus difficiles à obtenir. Et surtout, elles sont... la notification est très difficile à obtenir. C'est-à-dire que, là, par exemple, sur les projets, je vous ai dit, il y a des projets dans les tiroirs. Sur les projets dans les tiroirs, on a des notifications. Alors, quand on a la notification, qu'on vous dit on va vous donner 600 000 euros sur un projet, on a la notification. Mais on a du mal à obtenir les notifications parce qu'ils ont du mal à s'engager, quoi. Voilà, donc, mais on les demande, hein, mais elles ne sont pas pléthores non plus. Hein, elles ne sont pas pléthores. Hein, parce que, par exemple, l'État, juste pour indication, l'État, ils avaient une subvention qui s'appelait la DETR et la DECIL. Et ben, aujourd'hui, la DETR, c'était une dotation qui servait surtout pour les milieux ruraux. Ben, ils sont en train, petit à petit, de l'éteindre, gentiment, sans qu'on s'en aperçoive, et ils la font passer sur la DECIL, qui est orientée sur les économies d'énergie. Donc si vous avez un projet comme, par exemple, le skatepark, je disais ça, mais bon, ou rénover le terrain de rugby pour refaire les tribunes et tout ça, vous ne rentrez plus dans les critères. Circulez, puisque ce n'est pas de l'économie d'énergie, on ne vous donne plus rien, nous, l'État. Donc on est dans ces problèmes-là actuellement.
Oui, juste une petite chose. C'est très intéressant que tu nous aies montré ce tableau parce qu'on a tendance, surtout avec le discours ambiant national, à considérer qu'une dette ou qu'un emprunt est quelque chose de pas bien. Mais en fait, c'est comme dans une famille, quand on achète un appartement ou une maison, on peut dire « Super, t'es endetté à temps, voilà, ça rentre bien dans les clous, et puis tu pourras avoir ton appartement à toi dans quelques temps. Donc en fait, je pense que le discours négatif sur l'emprunt et où la dette est très dommageable, à partir du moment où on la contient et on rembourse, qu'on nous prête et qu'on rembourse normalement avec, entre autres, ce graphique que tu as présenté, entre 3 et 8, eh ben, c'est très bien. Emprunter, si on n'empruntait pas, ça veut dire qu'on ne fait rien. Ah ben voilà. Oui. Donc je trouve que c'est aussi bien de changer un peu le discours, que ce soit national ou local ou à n'importe quel niveau.
Je n'ai pas grand-chose à dire là. Non, là, M. Vira. Il avait... ah ben. La dame avant et puis après, M. Vira.
Alors, une toute petite question. Vous nous disiez que vous ne souhaitez pas discuter avec M. Vira par manque de temps ou parce que vous ne voulez pas perdre ce temps. Est-ce que la question n'est pas suffisamment importante pour trouver ce temps? Est-ce que ce ne serait pas de votre rôle de trouver ce temps?
Non, mais... Moi, je veux bien trouver le temps, mais M. Vira, il me dit qu'il faut qu'on analyse ensemble les chiffres et les comptes de la ville. Moi, je lui dis, c'est analysé, c'est fait. Ça a été fait. Il pourra les lire et il pourra revenir vers moi en me disant comment ça se fait qu'il y a ça, comment ça se fait qu'il y a ça. Mais l'analyse, elle a été faite. Dans ses 20 feuilles, il dit il faudra faire une analyse c'est ce que vous dites, une analyse de la ville en disant quelle situation elle est. Cette analyse, elle est là. Elle est là. On l'a demandé et on a voulu qu'elle soit impartiale. On a voulu qu'elle soit impartiale. Ce n'est pas moi qui l'ai faite. C'est la Direction générale des finances publiques. C'est-à-dire, c'est l'État. Donc, après, on peut dire que l'État, ils ne sont pas bons, je ne sais pas. Mais je peux vous dire que moi, je les ai côtoyés, ces fonctionnaires. Je peux vous dire qu'ils sont costauds, les mecs. Hein. Moi, je veux dire, ils sont costauds.
Je n'en doute pas.
Donc, ce rapport, il pourra le lire, M. Vira. Il pourra après revenir vers moi en disant je suis pas. Mais s'il me dit qu'il n'est pas d'accord avec ces chiffres, moi, je n'ai pas de dialogue à avoir avec lui. Je suis désolé, mais il pourra le dire. Hein, il pourra me dire ce qu'il raconte. C'est... Et s'il dit, et peut-être qu'il a raison, il faut qu'il aille les voir eux, pas moi. Parce que c'est pas moi qui ai fait le rapport, c'est la Direction générale des finances publiques de la Drôme, et c'est eux à qui pourra dire, peut-être qu'il a raison, il pourra dire, c'est pas bon ce que vous avez fait, je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est pas à moi qu'il faut le dire.
Alors c'est simplement un petit peu oui. Frustrant dans la mesure où j'étais à la réunion de monsieur, à la première réunion, donc c'est là où j'avais pris connaissance de questions, ou de peut-être qu'il n'y a aucune anomalie, c'est possible, et je suis venue aujourd'hui très heureuse de l'organisation de cette réunion, en me disant, ben là, il y aura une réponse. Mais pour l'instant, moi, ce que j'ai senti, c'est que vous mettez à l'abri derrière ces rapports, et il n'y a pas de véritable rencontre pour essayer d'aplanir cette différence qu'il peut y avoir d'interprétation sur ces chiffres.
Juste, madame, si j'étais venu avec mes chiffres que j'ai sortis de la comptabilité publique de la ville de Die, j'aurais amené des tableaux. Et M. Vira aurait dit, mais ce tableau, il est faux. Moi, j'aurais dit, le vôtre, il est faux. Donc, il fallait que je trouve des tableaux qui soient justes, enfin, qui soient impartiaux. C'est la seule solution pourquoi j'ai fait cette réunion publique. Parce que si j'étais venu avec mes tableaux, ça n'aurait pas avancé. On aurait eu un débat politique comme on a au niveau national, où un dit qui blanc, l'autre dit noir, et ainsi de suite, et à la fin, on n'en sait pas plus. Là, ce rapport, il sera consultable. Donc, je veux dire, tout le monde pourra consulter, ce n'est pas quelque chose de caché, et c'est quelque chose qui est fait par la Direction générale des finances publiques. Alors, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il faut de plus pour dire que ces chiffres qu'ils annoncent, c'est les chiffres qui sont bons, quoi. Après, comme je vous dis, peut-être qu'ils se sont trompés. Moi, je ne dis pas, peut-être que M. Vira, en lisant, il dira, mais là, ils se sont trompés. Ce qui marque, c'est faux, eh bien, il faudra qu'il aille les voir.
Oui, et peut-être M. Vira s'est trompé.
Mais je n'ai pas dit qu'il s'est trompé. Moi, j'ai dit simplement.
Ça pourrait être tellement simple de peut-être de passer une heure ensemble et d'en parler en tête à tête.
Alors moi, j'ai juste une petite question. Tu dis que ce rapport, il va être consultable et à partir de quand et où et comment?
Alors, pour l'instant, j'ai pas. Normalement, on devrait pouvoir le mettre en ligne à la mi-novembre.
Voilà. Sur le site de la mairie?
Oui. Okay. Mais c'est pas encore. Je dis mi-novembre parce que il y a quelques éléments qui nous manquent pour pouvoir le mettre parce que la DGFiP, bon, ils l'ont validé, hein, ils l'ont validé, mais c'est un rapport qui est consultable, mais qui est pas mis en archive chez eux. Donc il faut qu'on ait le temps de voir avec eux comment on peut le mettre en ligne parce que ils ont peur que d'une chose en fait. Ils ont peur que ce rapport soit un peu sorti feuille, par-ci par-là sur Facebook ou je sais pas quoi, en disant ah parce que bien sûr dans ce rapport, moi je le dis honnêtement, il y a des choses, comme je dis, il y a des choses qui sont sont très positifs pour la gestion de la ville de Die sur les 5 ans, mais il y a des choses où ils disent attention, là, vous êtes en tension, voilà. Et donc, alors, si on sort que les feuilles de tension, bien sûr qu'à la fin, on va dire c'est le bazar, la ville de Die. Voilà. Alors que ce n'est pas le bazar, je vous le garantis.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis un peu comme madame, là. Je vois qu'il y a un citoyen de la ville de Die qui s'intéresse à un certain nombre de choses et que finalement, vous n'avez pas l'esprit ouvert pour essayer de dialoguer, de se dire bah, peut-être ce n'est pas inintéressant, en fait. J'en sais rien, je ne sais pas. Je suis un peu surpris, quand même.
Je redis.
Non, mais excusez-moi, mais.
Non, mais j'ai...
C'est un citoyen de la ville de Die qui a une certaine compétence, qui propose, qui vient analyser les choses. En plus, je me demande comment se fait-il que là, en fin de mandature, on ait le droit à ce genre de choses qui est extrêmement intéressante. Moi, j'aurais espéré les avoir aussi chaque année, pourquoi pas. Alors, et avoir des discussions ouvertes et tout ça, avoir des citoyens qui se mobilisent pour regarder tout ça et puis qu'on en discute, je ne sais pas.
Alors,
voilà, c'est peut-être pas une question, c'est une remarque.
Juste pour répondre à monsieur. Alors, depuis le 1er septembre, on est en période de réserve électorale. Vous savez, 6 mois, le 6e mois précédant les élections, la mairie ne peut plus et n'organise pas et n'organisera pas des temps de débat, très clairement. Ce sont des temps d'information. Les débats contradictoires, ça aurait peut-être été très intéressant il y a quelques mois, quelques années, hors période. On ne peut plus aujourd'hui.
Je veux juste répondre aussi à une question. Je vais juste répondre à votre question sur comment ça se fait que ce rapport sort maintenant. En fait, ça fait 2 ans qu'on l'a demandé, globalement, ça fait 2 ans. Et donc, il est sorti il y a à peu près quelques semaines, parce que la DGFiP, c'est une grosse machine, et le temps qu'elle fasse ce rapport, elle l'a sorti que maintenant. Et de toute façon, elle ne sortirait pas de rapport annuel, puisqu'en fait, elle le sort via l'intermédiaire, via le service de gestion comptable qui valide les comptes de la ville. Mais ils ne sortiraient pas un rapport tous les ans pour la ville. Ils en ressortent un... Okay. Non, non, mais vous dites non, mais non, ils en... Oui.
C'est pas le rapport de la DGFiP qui m'intéresse, c'est ce qui est fait dans la ville. Vous, ce que vous avez fait.
Non, mais... Là, on est sur le budget principal. On est sur le budget principal. C'est des chiffres. On ne va pas vous dire on a fait ça, on a fait ci, on a fait la toiture, on n'a pas fait la toiture, on a mis... Non, on parle de la comptabilité. Ah oui, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. Parce que... Ça peut être une bonne idée.
Parce
qu'en fait, ils disent pourquoi ça se ferait pas tous les ans. Et je dis ça, alors je sais pas si c'est tous les ans, mais ça, c'est une bonne idée. Parce qu'en fait, le débat qu'on a au conseil municipal, il est de ce niveau-là. C'est-à-dire que, en fait, il y a des questions qui sont posées, mais ne peuvent les poser que les membres du conseil municipal. Et c'est vrai que sortir le budget, je dirais, du conseil municipal peut être un élément intéressant. Parce que les administrés pourraient peut-être mieux se l'accaparer, mieux le comprendre, peut-être, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je trouve que l'expérience, quand je l'ai faite pour ce soir, je me dis que c'était peut-être quelque chose d'intéressant. Alors peut-être pas tous les ans, parce que c'est assez lourd à faire, mais tous les 2 ans ou des choses comme ça, sortir pour qu'ils se démocratisent quelque part. Voilà, je suis d'accord avec vous pour ça.
Alors, juste une question très brève, en 2 volets. 1, comment expliquez-vous que la trésorerie soit passée de 2 millions d'euros quand vous êtes arrivé à 750 000 au 31 décembre 2024? Et comment expliquez-vous qu'après avoir touché 400 000 euros de subventions, et je suis d'accord avec vous que c'est difficile, vous avez un budget de subventions pour l'année 2025 de 1,4 million. On passe de 400 000 à 1,4 million. Comment expliquez-vous ça?
Non, mais je ne vais pas vous expliquer le budget 2025, il n'est pas fini. Bon.
Mais c'est ce que vous annoncez dans votre,
dans
votre communication du 18 août. Hein. Ce n'est pas moi qui l'invente.
Du 18 août?
Oui. Ou votre feuille de chou, hein, l'un ou l'autre, hein, je ne sais plus. Le flash, pardon.
Ah, le flash. Ouais. Non, mais je ne veux pas commenter le budget qui est en cours.
Vous l'avez annoncé, il faut l'assumer.
Mais
vous dites 1,4 million, comment voulez-vous qu'on vous croie si vous ne l'expliquez pas? C'est ça qui est terrible.
Non, mais... hein,
vous faites 400 000 depuis 4 ans, et là, vous feriez 1,4 million. Extraordinaire.
De subventions, vous voulez dire?
Oui.
Ben oui, mais bien sûr. Vous savez pourquoi? Parce que, alors, je ne sais pas si on les obtiendra, mais il faut savoir qu'en 2025, normalement, devrait aboutir complètement... alors, c'est sur le budget global. Le filtre planté de roseaux devrait aboutir, la réserve du musée devrait finir, la guinguette de Justin, et peut-être la rénovation du skatepark. Donc, inévitablement, comme on pensait que tous ces éléments-là devraient se finir, on avait programmé les subventions équivalentes par rapport à ces investissements. Seulement, il faut savoir que le skatepark ne sera pas fini. Non, mais attendez, je vous le dis, il ne sera pas fini cette année. Pourquoi il ne sera pas fini? Ben, je vais vous le dire. Parce que quand on a voulu le commencer, il fallait faire des fouilles archéologiques. Et que quand on a téléphoné à la DRAC, on leur a dit, en janvier, on les convoque 3 mois avant, on leur dit, en disant, en janvier, vous venez faire les fouilles. Oui, pas de problème. Janvier, on ne les voit pas, on les appelle. Vous ne venez pas? Ah, mais on n'a plus de sous, on n'a pas de budget. On ne vient pas. Ah bon? Et il a fallu que Isabelle Bizoire, et j'étais présent ce jour-là, qui les a convoqués, enfin invités fortement à venir à Die, et qui leur a mis une pression pas possible en leur disant « C'est n'importe quoi ce que vous faites, il va falloir vous bouger parce que ça peut pas fonctionner comme ça. » Et ils sont quand même venus au mois de mai, où ils ont gratté, ils ont rien trouvé, mais bon, voilà, et on a pu commencer que à partir de septembre les travaux globalement. Donc si la DRAC, l'État, était venu en janvier, si on avait pu commencer en mars, on aurait fini le skatepark en octobre et les subventions, on les aurait cette année. Mais on ne les aura pas. Pourquoi vous dites non?
Pourquoi? Parce que le chiffre que je viens de vous indiquer, vous l'avez sorti cet été dans le flash. Bon, cet été, vous saviez à quoi vous en tenir. Donc c'est pour ça que je n'ai pas confiance dans
les chiffres. Les fouilles ont eu lieu fin juillet, me dit Isabelle en plus. Fin juillet, les fouilles. En juillet, les fouilles. Je ne m'en rappelais plus, mais c'est en juillet. Donc, c'est quand on a eu que les fouilles étaient bonnes, enfin, étaient bonnes, il n'y avait rien, qu'on a pu commencer. Oui, mais le problème, c'est que, enfin, je veux dire, tous ceux qui ont géré des communes, qui ont été élus, quand on est élu, et qui ont géré des communes, savent très bien la complexité de dossiers. Je veux dire, moi, je veux bien que tout soit facile, il n'y a qu'un faucon, ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui lisent, mais il y a une complexité. Il y a une imbrication entre les services, surtout avec nous, les ABF, les bâtiments de France, les trucs, les fouilles archéologiques, tout ça. Enfin, il y a des choses qui font que les dossiers sont extrêmement compliqués à monter. Et donc, ben, le skatepark, par exemple, il sera fini au mois de mars ou février, mais pas au mois d'octobre comme on voulait. Et donc la subvention, elle ne sera pas sur 2025, elle sera sur 2026. Voilà.
Alors, on proposera
de gré à gré.
Merci. Eh bien, écoutez, moi, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que je trouve que vous avez utilisé vraiment la bonne méthode de trouver des chiffres qui sont officiels. On ne peut pas remettre en question la DGIFIP. Et j'ai vraiment bien compris le fonctionnement financier de la mairie. En plus, j'ai totalement confiance dans la gestion de la mairie d'Isabelle. À chaque mandature, elle a toujours vraiment assuré. Et je me souviens bien qu'elle avait une réputation que quelquefois, sur des projets, elle avait trouvé plus de subventions que la somme du projet. Ça, je m'en souviens très bien. Donc, je précise à le dire. En plus, je trouve que vous avez un esprit ouvert, contrairement à ce que dit la dame, puisque vous proposez à M. Vira qui lise le dossier de la DGFIP, qui vous rencontre, que vous mettiez tous les deux, vous mettiez à plat vos chiffres, et que si M. Vira n'est pas d'accord avec la DGFIP, eh bien qu'il aille voir la DGFIP et qu'il reconnaisse que le travail de la mairie de Die est vraiment positif, parce que je trouve que tous les projets qu'elle a voulu mettre en place ont été mis en place, et avec une mairie qui a autant de propositions aux citoyens et aux citoyennes, un cinéma, pardon, je suis émue, un cinéma, une médiathèque et tout ce qu'on sait, c'est bon. C'est une bonne gestion. Voilà.
Merci.
Merci.
Je vous propose qu'on lève la séance. Jean-Pierre, vous pouvez le garder jusqu'à 3h, 4h du matin.
C'est ça. Merci.